France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique.
Les Espagnols sont un peuple fier et ombrageux, avec un tout petit cul pour éviter les coups de corne. À l'instar de la vache, l'Espagnol va au taureau dès les premiers beaux jours. C'est la corrida. La corrida est une festivité espagnole gorgée de poussière frémissante et de somptuosité virile, au cours de laquelle on transperce un taureau fou avec des barres de fer pour faire sortir le sang en disant « Olé ». Quand le taureau tombe à genoux, les présidentes de cercle ont un orgasme fugace. On peut bien s'en moquer comme Pierre Desproges ici, ou comme les compères qu'étaient Jean-Yann et Jacques Martin. Le premier voyant dans la corrida les bouchers à la reine, et l'autre les abattoirs de la Villette dans les costumes du Châtelet. On peut ne pas l'aimer, on peut la détester, la haïr, la condamner, souhaiter sa disparition. Mais ce que l'on ne peut nier, c'est que la corrida ait ses règles, ses mots, sa langue. Si la corrida devait disparaître, cette langue disparaîtrait avec elle. Qu'elle parle du taureau ou du torero, elle est toujours espagnole. Comment aimer ou condamner d'ailleurs la corrida sans connaître et comprendre, un tant soit peu, les subtilités et la richesse de son vocabulaire, donc les finesses et la beauté tragique de son rituel et de ses gestes. C'était en 1998 dans Tirtalangue et ça s'intitulait « La langue de la tauromachie ».
Notre séance d'aujourd'hui est envouée à la célébration de la langue dont nous partageons le souci avec tous les usagers du français dans le monde.
Alors avant Babel, le langage véritable de Dieu et d'Adam est le chinois.
Oh, je suis au bout de la langue, ça m'énerve. C'est
Tire-ta-langue, une émission d'Antoine Perrault, réalisée par François Connac.
À Montreuil, on dit ouais, il y a une courave. Ouais, c'est une courave, ouais.
Mon métier de linguiste n'est ni de me faire le chantre d'une langue commune, en l'occurrence l'anglo-américain, ni de faire entendre des accents de Cassandre, d'être une Cassandre à cocarde.
Mais que fait donc ce mec, un micro dans la main? Mais que fait-il donc? On ne peut plus l'arrêter. Mais ce n'est pas de sa faute, il s'est tiré.
Voilà 2 ans, Pierre Combesco plaçait son roman La Sainte Famille sous le signe des monstres couleurs urinoirs mal récurés, les taureaux et leurs cornes chafouines. Dans un bar de Nîmes, il campait un torero de bistrot dont la tchatche ébahissait les piliers de comptoir qui n'en possédait pas moins une caboche vagabonde et bruissante de cette musique soyeuse que rend, telle une déchirure, la cape imaginaire dessinant une Véronique irréelle, tandis que s'y engouffre, en boule, rétréci sur lui-même pour mieux s'allonger, revenir sur l'homme avec plus de violence encore, un taureau évanescent. Et, dans le bistrot de la Sainte Famille, chacun se laissait griser par cette musique des mots qui résonnait dans les têtes comme autant de grelots. Espérons qu'il en sera de même à l'écoute du documentaire d'Éric Vatré qui s'apprête à caresser dans le sens du poil la langue de la tauromachie. Mais d'abord, ici et maintenant, déboule dans l'arène Philippe Barthelet et sa chronique bondissante.
Tauroboli. Le taureau remonte à la plus haute antiquité et à la plus violente. Que faire d'un taureau en effet, sinon le combattre, comme le divin Hercule a dompté celui que Poséidon avait lâché sur la Crète. Ce fut l'un de ses 12 travaux et le roi Minos lui en sut gré. Non sans toutefois regretter qu'il ne fût pas venu plus tôt, avant, par exemple, que le taureau ait connu la reine. La suite fournira une nouvelle occasion de s'illustrer à une nouvelle génération de héros, après Hercule, Thésée, et après la tauromachie toute simple, la minotauromachie. Les composés du taureau sont en grec toujours sanglants. La tauromachie se termine par le tauricide, de même que le taurobol, ou sacrifice de l'animal. Les fidèles de Mithra, dit-on, les pratiquaient, et jusque dans les débuts de l'ère chrétienne, ce que d'aucuns ont fait semblant de regretter. Mais on ne fait pas de bonne religion avec de bons ressentiments, et il était écrit dans les astres, dans le cycle du zodiaque, qui est la plus ancienne mémoire des hommes, que le sacrifice du taureau devait être supplanté par celui de l'agneau, soit le bélier à sa naissance. Le sacrifice d'un seul taureau valait bien une hécatombe, soit celui de 100 bœufs, le taureau étant, comme le rappelle Pierre Larousse, un mâle entier de l'espèce bœuf. On pourrait dire tout aussi bien que le bœuf est un vestige partiel du type taureau. C'est en tout cas par son entièreté que le type a survécu, et son impossible composé humain, le minotaure, a hanté le vocabulaire jusqu'au XIXe siècle, où Balzac se plaisait à faire minotauriser par ses héroïnes leur mari trop insoucieux d'elles. Mythologique façon de faire porter les cornes et de rendre à l'adultère bourgeois le frisson du labyrinthe et de la bête affrontée. L'art d'affronter le taureau, cette fois à l'air libre et en public, José Bergamine en a fait toute une morale et même une métaphysique. Le birlibirloque, comme il l'appelait, consiste en une savante alternance de provocation et d'esquive. Certains, qui n'avaient pas de taureau sous la main, l'ont dit praticable avec les automobiles. C'est ainsi qu'Antoine Blondin, les nuits qu'il ne remontait pas le fleuve jaune, aimait à torréer entre la rue du Bac et le quai Voltaire.
En une minute, on commence à faire à genoux. C'est très spectaculaire, évidemment. Moi, j'aime pas trop, mais enfin, il gagne bien sur le taureau. Visiblement, il veut triompher. Voilà. Croiser des barres le haut à genoux. 4. Maintenant. Voilà. Un changement de main par devant. Une poitrine. Et voilà, le taureau est placé. C'est du joli travail. Très net, très dominant. Alors là,
dans le spectacle magique de la course, la présence de la mort est exclusivement liée au taureau, tandis que les lumières de la raison irrationnelle, s'allumant et s'éteignant sur son habit, masquent d'immortalité le torero. Dès qu'un torero nous exprime, volontairement ou involontairement, sa vaillance ou sa peur, l'émotion magique de son art s'évanouit. Car l'émotion du torero relève exclusivement de l'art. José Bergamine, la solitude sonore du torero.
Simon Casas.
Je ne connais pas de torero qui est considéré un taureau comme étant un ennemi. Je ne connais pas un torero qui ait haï un taureau. Je ne connais pas un torero qui n'ait rêvé d'autre chose que d'être un jour éleveur de taureaux. Je ne connais pas un torero qui n'ait passé des heures et des heures et des heures de sa vie à regarder dans les champs les taureaux comme happés par un appel mystérieux. Cet appel mystérieux, effectivement, c'est un transport que l'on pourrait désigner comme étant un transport amoureux. Mais pourtant, c'est vrai, c'est un partenaire. Un partenaire, pourquoi ? Parce que c'est avec cet objet de plaisir là, cet objet là qui va nous permettre d'obtenir le plaisir que l'on recherche dans l'arène. Ce qui nous fait jouir, on ne peut pas le haïr, ou du moins c'est à ce moment-là que ça devient de l'amour, quoi. Enfin vous connaissez le système. Et donc c'est ce que je voudrais dire aux gens qui n'aiment pas la corrida et qui ont bien raison de ne pas l'aimer. Je voudrais simplement leur dire une chose, on n'est pas dans l'arène pour se battre avec un taureau et pour le vaincre en gagnant de l'argent. On est dans l'arène pour vivre une aventure avec un animal. C'est peut-être méprisable par certains aspects, je le reconnais, mais c'est peut-être aussi l'aventure de l'homme.
Zoccato, parallèlement au langage tauromachique codifié, il existe un ton. Des expressions de rechange cultivées dans la chronique taurine. S'agit-il d'une simple affaire de style ou d'une forme d'émancipation ?
Je pense que la corrida, quand elle est traitée dans une critique écrite, devient très vite rébarbative dans la mesure où on sait toujours très bien qu'il y a 6 taureaux, qu'il y a 3 toreros, parfois 2, parfois 1, enfin c'est toujours les mêmes bases sur une trilogie. Et donc, un compte-rendu de corrida d'une tristesse accablante dans la mesure où on ne met pas d'abord un style particulier, le sien, et là on a eu les grands maîtres depuis le 19e siècle, et ensuite de la polémique, bien sûr, mais qui est très difficile à voir parce que il faut avant tout connaître énormément le taureau et voir le taureau, voir les qualités du taureau, et ça il faut des siècles.
Et les ressorts de cette polémique, quels sont-ils ?
Il y a ceux qui font dérailler le train, ceux qui font pas dérailler le train. Ceux qui font dérailler le train, c'était de la phrase de Juan Belmonte, grand torero des années 20. Un taureau, ça va tout droit, c'est la ligne droite, et il faut donc lui imposer sa volonté, le faire dérailler. Et là, on rentre dans des notions de technique par rapport au taureau, par rapport à sa course naturelle, par rapport à l'axe où il frappe plus facilement du côté gauche, du côté droit, et savoir si le torero est à la hauteur de ce taureau, s'il est en dessus ou en dessous des qualités ou des défauts du taureau. Et là, chacun peut interpréter dans la mesure où, bien entendu, il y a 5000 connaisseurs sur les gradins et celui qui n'y connaît rien, il est en bas.
Mais encore une fois, les formes de cette polémique écrite, quelle forme revêt-elle ?
Elle est dans la façon où vous dites qu'un torero n'a pas été bien ou qu'un taureau n'a pas été bon. Alors là, il y a des notions de bravoure, de caste, chez un taureau, je parle, d'élan, d'allégresse, de couardise, de mansuétude, de bravoure, de noblesse. Tout ça, il faut le définir, le déceler chez un taureau de combat. Et c'est très difficile.
Entre la presse taurine et le langage des aficionados, y a-t-il relation de cause à effet ? La presse est-elle en mesure de renouveler, de compléter le vocabulaire usuel ?
Très difficile pour les Français d'avoir, de bien faire comprendre au public ou un grand public ce qu'est la tauromachie. Alors, on travaille à l'image, à la métaphore. Quand on parle d'une charpente de taureau, on parle de châssis, de carrosserie, on a un langage militaire, on a un langage mécanique.
C'est pas spécifique à votre genre de chronique, à la limite, cela ?
Non, parce que le taureau, ça s'écrit taurero, puisqu'on l'écrit à l'espagnol, qu'on différencie du taureau domestique, qui s'écrit à la française, comme chez nous. Et il faut donc essayer de faire rentrer les gens sur ces deux heures de corrida qui se sont passées, et chaque fois essayer d'inventer ou de donner des images en permanence par rapport au taureau. On peut traiter, j'ai souvent dit, le taureau ressemble à des girafes. Alors on sait très bien que quand on dit les girafes, on parle des murats, parce que les aficionados ont des repères. On sait que les murats, c'est une race de taureaux qui sont très hauts, très grands. Après, il y a les zapatos, les souliers. Les souliers, c'est l'élevage de Carlos Núñez, parce qu'ils sont très bas sur pattes. Les banderilles noires, on appelle ça les veuves. Parce que quand un taureau est trop coir, on lui met des banderilles noires, des banderilles de couleur, puis ça les veuves. On a énormément de codes qu'il a fallu transposer de l'espagnol en français, et qui sont déjà très difficiles.
Mais encore une fois, ce n'est pas une invention des chroniqueurs taurins français. C'est un emprunt, une traduction.
C'est vraiment, ça découle du vocabulaire espagnol,
mais taural. Mais pourquoi ce défaut d'imagination ?
Un exemple. Un taureau, en espagnol, un toro se raja. Il y a quatre mots. Un toro se raja. Un taureau se raye. Pour expliquer qu'un taureau se raye, qu'est-ce que ça veut dire qu'un taureau se raye ? Ces quatre mots en espagnol, on a tout compris. Ça veut dire que le taureau, tout d'un coup, s'arrête. Ne veut plus charger, ne veut plus rien savoir. Mais ça rentre dans une notion de rond. Donc, ça dépend où il s'arrête. Dans quel temps de la faena qui dure 20 minutes, il s'arrête. Est-ce que c'est en début de faena ? Est-ce que c'est... Avec trois mots en espagnol, d'un vocabulaire très particulier, très codifié, on sait tout. En français, il nous faut... s'incline pour expliquer la même chose.
La langue française n'est pas assez précise à votre sens pour qu'une chronique en français sans référence à des mots espagnols puisse se tenir. C'est inenvisageable pour vous ?
Si elle est écrite en espagnol sur 50 lignes, il en faudra 500 en français.
Les taureaux s'ennuient le dimanche. quand il s'agit de courir pour nous, un peu de sable, du soleil et des planches, un peu de sang pour faire un peu de boue. Mais c'est l'heure où les épiciers se prennent pour Don Juan, c'est l'heure où les Anglaises se prennent pour Monterland. Qui nous dira.
Est-ce que, à vos yeux, le français autoriserait la même rigueur de définition si l'on transposait littéralement? N'y aurait-il pas risque ou de perte de substance?
Cela dépend des personnes auxquelles on s'adresse. Si je m'adresse à des aficionados, je pense qu'on peut,
Florence
on peut parler
Delay.
Cette langue hybride. Mais si on pense que certains écrits portant sur la corrida ont une portée universelle, si on pense que la corrida est prise comme miroir de réflexion, je pense au titre de Léris, miroir de la tauromachie, si donc on pense la tauromachie comme métaphore de quelque chose, je pense à ce moment-là, on ne peut pas se permettre de traduire les termes espagnols techniques par l'équivalent français. Il faut trouver une façon de faire rentrer cette géométrie dans l'esprit de finesse français.
Cependant, tout au cours de la traduction que vous donnez du livre de José Bergamín, La solitude sonore du Torillo, l'intégralité du texte espagnol de Bergamín se trouve mis en français par vos soins.
Tout à fait.
Donc vous avez procédé à la traduction systématique de chaque expression.
Oui. Oui, parce qu'il disait que l'art de Toré est interplanétaire. Il affirmait cela.
C'est pour ça que je parlais de l'universalité du Toréo.
Vous avez tout à fait raison, parce qu'en fait, tout l'enjeu est là. Par exemple, pour un intellectuel comme Bergamín, qui connaît magnifiquement la technique, etc., écrire là-dessus, c'est écrire à propos de la morale, de l'esthétique, de la religion. Enfin, je veux dire, ça dépasse infiniment la pure technique.
D'abord, on a cru qu'il ne se passerait rien. Puis, il ne s'est rien passé. Et d'un coup, Séville a grondé de bonheur. Courreau a aligné 5 Véroniques, les mains rasant le sable, le corps détendu. On peut faire l'affiche de l'an prochain avec la photo, comme si le temps s'était englouti en l'instant dans une fontaine blanche. Les choristes se sont levés comme un seul enfant. Courreau, sous le regard penché de la mère du roi, la plus illustre des choristes, a salué Montera en main, ce qui est rarissime à cette phase du combat. Courreau ne combat pas, il torrait, monsieur. Les vertueux se hélaient de loin en se tapant le front de leur index avec une moue assez difficile à imiter pour un choriste. Ils n'étaient plus très nombreux parce que, dans ces moments-là, les plus faibles d'entre eux redeviennent choristas d'un coup. On rappelle qu'il s'agit d'un des derniers moments de magie avec acteurs vivants et tout de même un taureau de combat. Les choristas ne sont jamais au bout de leur illumination. Courreau s'est avancé avec décision, la foule a fait un silence de tombe, et là, il a remis 5 Véroniques d'estampes, plus lentes que la lenteur, approfondies comme des concepts, insaisissables comme des vertus, légères comme l'amour, et conclues d'un desplante, posture de défi, désarmé, assez ridicule et plutôt comique. La perfection du bonheur, viva, salutation, Montera en main, bis repetita placent, et cette incroyable rumeur, cet orage verbal qui suit tout geste de Courreau. On dira ce qu'on voudra, mais un torero réinvité à saluer une troisième fois après 10 coups de descabello, exactement autant qu'au premier taureau, ce n'est pas fréquent. C'est très difficile et risqué de tuer un taureau de combat debout, surtout à 63 ans.
Francis Marmande. Mais l'abondance des termes hispanisants n'est pas a priori pour vous quelque chose de déconcertant. Non pas pour vous en tant que connaisseur, bien sûr, oui, de la langue espagnole, mais pour le lecteur.
Écoutez, on retrouve alors une fonction magique de ce que de ce qu'on ne comprend pas très bien. Et ça marche assez bien avec la tauromachie. L'été, quelquefois, je lis la critique taurine à des amis qui passent chez moi, qui ne connaissent rien au taureau, et ils se mettent à rire, et puis, brusquement, leurs yeux s'écarquillent, et il y a quelque chose de magique qui passe. Comme, c'est peut-être un peu enfantin, mais vous savez, c'est langage inventé, finalement.
Mais vous n'avez pas songé à susciter une sémantique française ou à provoquer, effectivement, pour les aficionados français, l'idée de transporter dans notre langue certaines expressions de l'espagnol ou peut-être même forger, pourquoi pas, avec l'imagination de l'amateur.
Mais il serait très malheureux parce qu'une partie du plaisir de l'aficion française est un baragouin espagnol qui enchante avec un accent épouvantable et... Et tu as vu ce passé, quelle suerte qu'il a donné, enfin, une espèce de, qui fait plaisir à celui qu'il commente. Donc, il n'y a pas à y substituer une sorte de langue académique qui est fausse. Donc, je crois que...
Il n'y a pas de moyen terme entre, justement, le baragouin et la langue académique. Ça, c'est pas envisageable.
Ce baragouin a l'air méprisant, mais parce que c'est une réalité, vous comprenez? C'est une langue qui s'est forgée dans le sud-ouest et elle fait plaisir à ceux qui la parlent. Hein, parce que ceux qui la parlent ne parlent certainement pas comme ça à leur femme si elle ne va pas à la corrida avec eux ou à leurs enfants s'ils n'aiment pas ça. C'est la langue parlée par ceux qui aiment.
En tête de vos comptes rendus dans Sud-Ouest, vous inscrivez une sorte de cote échue au toréador. Par exemple, une oreille et deux oreilles. Silence avec avis et une oreille. Salut et salut. Que faut-il entendre par là?
Ça, c'est une fiche technique. C'est comme Paris Saint-Germain, Girondins de Bordeaux, but à la 6e minute, marqué par un tel, carton jaune. Il y a 3 toreros, ils ont 2 taureaux chacun. C'est le résultat... artistique ou le résultat du public vis-à-vis de ces 3 toreros. On sait sur cette fiche technique très vite que le plus ancien d'alternative, c'est le premier qui est en tête, c'est celui qui a reçu son grade de matador le premier. Et il y a là silence, si le public a fait silence à la mort de son premier taureau, et s'il y a une oreille, c'est qu'il a coupé une oreille au quatrième, ainsi de suite.
Zocato, bon nombre de critiques taurins français adoptent des pseudonymes à consonance espagnole. Leur crédibilité passe-t-elle par là?
Je ne pense pas. C'était une mode à l'époque où... ça avait été inventé à l'époque où il y avait eu un président de société protectrice des animaux en Espagne qui était tombé amoureux de la corrida et qui avait trouvé un pseudonyme pour se cacher derrière cela, autrement bien entendu, ça aurait eu pas mal de problèmes. C'est resté, ce sont souvent des surnoms taurins. Je sais que dans notre journal, à Sud-Ouest, mes 5 ou 6 prédécesseurs ont pris des surnoms. Le mien, Zocato, c'est parce que je me suis essayé un temps à la tauromachie, et comme j'ai stocké avec la main gauche, et qu'en andalou, c'est la socata, on me surnommait El Socato, c'est sous ce surnom-là que j'ai commencé à torer. Et quand j'ai lâché l'épée pour la plume, je l'ai gardée.
Suelta mi manso, mayoral extraño, pues otro tiene...
Majoral étranger, laisse accourir mon sonnaillé, puisqu'un autre tu as qui, tout autant t'honore. Renonce à ce gage quand mon âme j'adore, perdu pour ton bien et pour mon malheur. Passe-lui sa sonnaille d'étain façonné et cesse de le jouer avec tes colliers d'or. En présent de retour, reçois ce taureau blanc qui aura 1 an aux premières herbes.
Je traduisais un très beau sonnet. Ce sonnet a été traduit par René Char. Et il est fait mention du bœuf qui est dans les prairies et qui guide les taureaux. Et en fait, du bœuf domestique, qu'on fait venir quelquefois dans les arènes quand le taureau est blessé. Et René Char, traduisant ce sonnet, a retrouvé un mot qu'on utilise en Camargue, qui est le sonnailler. et que moi je croyais qu'il n'y avait aucun mot en français pour traduire, mais il y a le sonnaillé.
Si pides signas, tiene el velocino pardo.
Veux-tu de lui signe certain? Il a le pelage brun cendré, crêplé. Il a de tendres yeux comme ensommeillés d'une saveur de songe. Si tu penses que je ne suis pas son maître, Alcino, laisse-le aller et tu verras s'il ne vient à ma cassine où les mains du maître sont encore frottées de sel. Lope de Vega.
Emmanuel de Marie Chalard, Le souffle dans le dos, titre de votre livre, est-il l'effet d'une transposition directe ou d'un enjeu ?
Une transposition directe, oui, dans le sens où je suis pratiquant de ce qu'on appelle l'ensiro, qui est le sujet de l'ouvrage. Un enjeu du point de vue de la pratique, oui, parce que l'ensiro inclut comme enjeu d'éventuellement risquer sa vie près du taureau. Donc l'enjeu se pose d'un point de vue pratique.
Alors, tout d'abord, d'où vient le mot ensiro ?
Alors, le mot ensiro provient du verbe encerrar, qui veut dire enfermer. L'ensiro, littéralement, veut dire enfermement. C'est-à-dire que dans le déroulement d'une corrida, bien préalablement à cette corrida, il faut faire venir les taureaux depuis leur lieu de pâture, souvent l'élevage, parfois un simple pré près de la ville. Et lorsque le moteur n'existait pas, on enfermait les taureaux en les faisant passer par les rues de la ville jusqu'aux arènes. Et ce qui a donné le nom à ce qui est devenu aujourd'hui un spectacle à Pamplune, retransmis par beaucoup de supports audiovisuels, espagnols et étrangers, et qui porte donc le nom d'Ensiro.
Et la part du danger ?
La part du danger à l'Ensiro est supportée par les participants qui sont bénévoles, passionnés généralement, et très connaisseurs en matière de taureaux. Elle peut aller jusqu'à la mort. Le taureau, au sein de l'Ensiro, a des comportements différents de la corrida. Comportements qu'il faut décrire, et pour lesquels il va peut-être falloir inventer, sinon des mots, au moins des expressions ou des interprétations concernant le comportement du taureau et au-delà de l'homme au sein de l'ensiro.
Alors il y a des exemples comme attrapair et abrivado.
Voilà, par exemple l'abrivado, qui est, on va dire, un cousin de l'ensiro, mais qui se déroule en Camargue et aux alentours avec des cavaliers qui accompagnent les taureaux, qui ne sont d'ailleurs pas des taureaux de race espagnole, mais des taureaux de race camarguaise. Eh bien, l'abrivado amène les taureaux aux arènes, tandis que l'abandido concerne le retour de ces taureaux depuis les arènes jusqu'au pâturage. Ce sont des mots originaires de cette partie de la France bien spécifiques. Donc il y a un langage de l'ensiro ou de ses activités annexes ou connexes, eh bien, qui sont spécifiques à des régions de France.
Emmanuel de Marie Chalard, comme toute course sportive, l'ensiro est d'abord une technique avec ses maîtres mots, connecté, parar, templé.
Oui, alors là, templé est un mot, par exemple, qui n'existe pas en français, qui vient de templar en espagnol, qui veut dire, j'allais dire suaviser, mais c'est un mot qui n'existe peut-être pas non plus en français, qui veut dire tempérer. Alors templar, l'allure du taureau, c'est tempérer l'allure du taureau. Templar, sa propre course, c'est tempérer sa propre course.
Un mot que l'on retrouve également dans la corrida.
Exactement.
Le temple, c'est,
Roger Dumont,
c'est s'accorder avec la charge du taureau, c'est-à-dire retirer la muleta, l'étoffe, dans la vitesse de charge du taureau, et parfois même pouvoir, en baissant l'étoffe par exemple, ralentir quelque peu la charge du taureau. Alors ce mot-là, temple, est très difficile à traduire évidemment. Et chaque fois, on ne peut pas quand même se permettre de dire il présentait l'étoffe et maintenant il est en parfait synchronisme avec le taureau et il le ralentit, etc., etc.
Parmi les colonnes du temple, on trouve les termes comme tercios, les faenas, la lidia.
Alors le tercios, ce sont les chaque tiers de la corrida, parce que le premier tiers, c'est celui de la cape et de la pique, ensuite c'est celui des banderilles, et le troisième tiers, qui se compose un peu comme une pièce de théâtre, c'est le moment où le matador est seul et va tuer le taureau et tue le taureau. Ensuite, il y a la faena, qui est le travail du torero, qui peut être celui avec l'étoffe du début, c'est-à-dire avec la capa, et qui peut être aussi la faena de muletas, qui est avec l'étoffe écarlate dont se sert le matador en fin de parcours. Et puis la lidia, bon, c'est le combat, que mène tout le monde, c'est-à-dire le subalterne tout autant que le maestro.
Mais alors, les toreros français dans tout cela, ils existent bien néanmoins.
Mais les toreros français existent bien, et ils parlent tous castillan. Non, j'ai bien connu Nimeño, bien sûr, Patrick Varin, Richard Milliard, mais et d'ailleurs quand ils appellent le taureau, il lui parle en espagnol, il lui parle pas en français.
À ce moment-là, on a tout oublié.
Frédéric Pascal.
Et on est aussi démunis que pour la première fois où on s'est mis devant la corne des taureaux. Entre chaque course, avant de sortir du bourladère pour donner du refuge, pour donner la première passe à un nouveau taureau, on se demande si ce nouveau taureau ne va pas réfuter tout notre acquis technique. On sait d'une façon tout à fait empirique, parce que rien n'a jamais été expliqué, de savoir pourquoi on trompe le taureau. On ne sait pas, scientifiquement c'est quelque chose qui n'a jamais été expliqué. On se demande si ce taureau-là qui va sortir ne va pas être le taureau révolutionnaire qui va réfuter tout cet acquis technique difficilement acquis. Alors, et je voudrais préciser que quand même ça ressemble à un peu de la magie, parce qu'on dit bien, enfin, dans tous les manuels qu'on peut lire, tous les aficionados, il faut avancer la muleta, le leurre, donner ce que l'on appelle le toc, c'est-à-dire faire bouger la muleta pour que l'attention du taureau soit fixée sur cette muleta. Mais on a beau faire ça, s'il n'y a pas tout cet acquis, toute cette technique qui vous est rentrée dans tout le corps et qui fait que vous arrivez à rentrer en communication finalement télépathique, je peux dire presque, avec le taureau, vous n'arrivez pas non plus à tromper ce taureau.
Deux mots que le torero pédestre ignore, c'est feinter, à savoir feinter l'animal, et tromperie.
Feinter et tromper l'animal, et effectivement, sont des choses qui ne doivent pas arriver à l'ensiro. L'ensiro est censé provoquer un rapport direct entre l'homme et le taureau sans l'utilisation d'ustensiles comme la cape ou la muleta. La cape ou la muleta, par destination, servent à tromper le taureau. L'homme à l'ensiro n'a pas d'ustensiles, donc ne doit pas feinter le taureau.
Il ne doit pas le renseigner, en fait.
Exactement, parce que ça voudrait dire que le taureau apprend à ce moment-là et il est censé sortir au moment de la corrida vierge de tout enseignement, donc l'ensiro ne doit surtout pas renseigner le taureau.
Le glossaire est nombreux pour définir les états multiples du torero. Si tout va bien, on évoque le duende.
Oui, le duende, alors là, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. On peut le traduire, mais on le fausse un petit peu par inspiration. Mais c'est quelque chose de tellement immatériel, quelque chose de volatile aussi, enfin, qui repose sur peu de choses. C'est un pouvoir de création que peut avoir un torero qui est visité vraiment par une espèce d'illumination de champ profond, de cantejondo. Et c'est là où il s'abandonne devant le taureau, où il a le duende, où il peut faire des choses absolument remarquables. Parce qu'il ne suffit pas d'être un grand technicien. Il faut aussi avoir le cœur, il faut avoir l'âme. Et je crois qu'un des plus grands, représentants du duende, ça a été Antonio Ordóñez, qui m'a confié d'ailleurs que c'était au moment où il était le plus inspiré, etc., où tout se passait si merveilleusement bien, qu'il oubliait des fois le danger du taureau, que ses plus graves blessures, il les a eues à ce moment-là.
À l'occasion, les deux adversaires se trouvent, pour ainsi dire, logés à la même enseigne et soumis à une même terminologie, en atteste apurado.
Apurado, oui, ça c'est la peur, là.
Mais c'est la peur du taureau et c'est la peur du torero.
C'est la peur du torero. Mais un taureau apurado, C'est un terme qu'on emploie assez rarement, alors qu'on le dit davantage pour le torero.
Tous les toreros ont tous peur.
Hein. Robert Pilès.
Il n'y en a aucun qui prétendant ne pas avoir peur. Il se trouve qu'au cours de notre carrière, nous avons acquis certains automatismes qui nous permettent de faire face à cette peur. Mais ce ne sont que des caractères acquis. On ne peut pas dire que la seule qualité pour devenir torero, ce soit d'être courageux. C'est faux. Hein. Le courage est un caractère acquis, comme de savoir marcher, comme de savoir parler. Alors, le torero a peur. Effectivement, le moment où il a le plus peur, c'est celui où le taureau vient de sortir du toril, de l'endroit où il est enfermé, et où le torero va donner sa première passe. Parce que jusque-là, il se demande si le taureau qui va sortir ne va pas réfuter tout son acquis technique et du premier coup de cape ne va pas lui rentrer dedans. Parce que c'est une chose aussi qu'on n'a jamais su expliquer, c'est pourquoi on est arrivé à tromper le taureau.
Au cœur de la Lidia, le registre de la furie taurine est éloquent. Le taureau combattant est réputé bronco, codifioso ou plus encore marajo.
Oui.
Quelle est justement la distinction entre ces termes?
Bronco, c'est le taureau qui manifeste une certaine nervosité et qui a une certaine âpreté. Le taureau codifioso, c'est le taureau dangereux. Le taureau bronco peut être dangereux aussi, mais codicioso, c'est vraiment la recherche du coup de corne à donner au matador.
L'autre versant, c'est l'anticorrida, quand le fauve présumé se comporte en antifauve, en manso perdido.
Manso perdido, oui, alors là, c'est la désolation de la désolation, c'est le taureau qui court dans tous les sens, mais en sens inverse de là où on voudrait le mener. Qui refusait les piques, qui peut être codicioso aussi, parce qu'un taureau qui fuit le combat peut être également très dangereux.
Alors il existe une expression assez savoureuse, c'est la hermana de caridad.
Oui, la sœur de charité. Oui, hermana de caridad, c'est un terme qu'emploient souvent les toreros pour désigner des taureaux qui sont bons, qui sont un peu sucres, c'est-à-dire qui se laissent torer, qui ont une bonne vitesse de charge, mais une charge rectiligne, enfin, qui n'ont pas d'âpreté, qui ne sont pas bronco.
Pour Catherine Clément, le torero est, je cite, « profondément inscrit dans une figuration masculine ». Le spectacle tauromachique n'étant accessible aux femmes que de biais. Florence Delay, ce biais a-t-il eu un sens pour vous, écrivain ?
Moi, j'y crois pas du tout à ce qu'elle dit. De toute façon, ça change. Tout le monde voit un homme et une femme. Cocteau, qui a écrit un merveilleux texte qui s'appelle « La corrida du 1er mai », voit même une fabuleuse figure féminine dans le torero avec ses bas de soie, avec
Monterland aussi.
Non, je veux dire, là vraiment, chacun fait avec ses propres projections, sa sensualité, son imagination.
C'est payer tribut à la vieille idée reçue, bien sûr, que la femme méconnaîtrait le sens tragique aussi.
Il suffit de regarder n'importe quelle Mater Dolorosa au pied de la croix pour comprendre que la femme a le sens de la tragédie. Et je me permets d'évoquer Mater Dolorosa parce que dans la corrida, il y a plein de traces de la religion. On appelle par exemple Véronique une très belle passe où le taureau présente sa cape au taureau comme, dit-on, Sainte Véronique a présenté son voile au Seigneur. Hein, il doit être en face en tenant... Bon, on appelle ça la Véronique et pas pour rien.
La mort fait partie du taureau naturellement, disait Nimenio II. Quant à vous, Roger Dumont, vous stigmatisez certaines estocades, notamment le goyetazo.
Le goyetazo, oui, c'est un coup d'épée qui frappe dans la gorge du taureau. Il y a aussi le baronazo, qui est une estocade très blâmable aussi, qui s'enfonce dans les poumons de l'animal et qui montre aussi que le matador ne s'est pas profilé devant le taureau parce que il y a une façon de tuer sincère, et puis, c'est-à-dire en se mettant vraiment dans le berceau des cornes et en esquivant la corne au dernier moment. Et puis, il y a une façon de faire deux pas sur le côté et puis enfoncer l'épée sur le côté, sur le flanc ou dans les poumons. Alors que là, c'est réellement scandaleux. On ne supporte pas.
Une sonnerie de clairons et de timbales annonça la suerte des muertes et Gagliardo sauta de nouveau dans l'arène. Il ne fit que deux passes de muleta, aidé par un capéador qui se tenait à côté de lui. Et soudain, avec une rapidité de songe, comme par le déclic d'un ressort, il bondit sur le taureau et lui porta une estocade dont ses admirateurs dirent que c'était un éclair. Il engagea le bras si avant que quand il le retira d'entre les cornes, il sentit le contact de l'une d'elles. Chancela fut repoussé à plusieurs pas, mais il resta debout. Et la bête, après un galop affolé, vint choir de l'autre côté de l'arène, où elle demeura les pattes pliées et la tête sur le sable, jusqu'à ce que le puntiliero lui eût donné le coup de grâce. Vicente Blasco Ibáñez, Arène sanglante.
A las cinco de la tarde, eran las cinco en punto de la tarde, un niño trajo la blanca sábana a las cinco de la tarde, una espuerta de cal ya prevenida a las cinco de la tarde, lo demás era muerte y solo muerte.
Dans Œil rouge sur le sable, vous évoquez de façon superbe la mort du torero, de Manolete à Nimeño II. L'écrivain, selon vous, doit-il se plier avant toute expression à un devoir de réserve, de pudeur face au tragique de la reine?
Si vous parlez de la mort, on ne peut qu'avoir, enfin moi en tout cas, je ne pouvais avoir qu'une extrême réserve, pudeur et aucun lyrisme. Si vous parlez de la joie de la fête, cet aspect qui est beaucoup moins connu par les Français, beaucoup moins traité, l'alegría, et que les Espagnols mettent par-dessus tout, là, vous pouvez peut-être devenir expansif et métaphorique, etc. Mais face au sujet que j'avais choisi là, qui était un hommage à la mort dans l'arène, tant du taureau d'ailleurs que du torero.
Ou en dehors de la reine pour Nimeño II et quelques autres.
Ou en dehors de la reine, bien sûr, pour quelques-uns, hélas. Là, je me suis dit que je ne pouvais avoir la force de mon sujet que si j'étais dans une grande, grande économie de moyens.
Nimeño II, Feria de Nîmes, 1983.
Il y a quand même le truc de la mort aussi, on sait qu'on va se jouer la peau et qu'on risque de prendre un coup de corne et qu'on risque d'y rester. J'ai des tas de gens que je connaissais très bien, des taureaux, qui se sont fait tuer par un taureau. Et même si on veut l'oublier un petit peu, ça revient de temps en temps. On a besoin de quelque chose pour se raccrocher.
La langue de la tauromachie par Éric Vatré, avec Florence Delay, Roger Dumont, Emmanuel de Marichalard, Socato. Texte lu par Luc Ponette et François Connac. Archive INA, voix de René Ponce, Simon Casas, Frédéric Pascal, Robert Pilès, Nimeño II. Prise de son, Jean-Richard Dufour, François Le Calvez. Mixage, Noélie Louis-Marie et Stéphane Desmond. Réalisation, François Connac.
Voilà, là, il agite sa moulette à sous le mufle du taureau pour montrer qu'il l'a bien dominé. Voilà. Pour la mort. Alors là, le taureau n'était pas bien fixé, pas bien. Bien. Alors là, il faut que...
la baie soit cadrée, c'est-à-dire qu'elle ait les pattes bien parallèles, de façon à ce que en entrant, il n'y ait pas l'épée ne soit pas gênée. Voilà. Là, il y a un petit problème, le taureau est mal fixé, et chaque fois qu'un imenio lève l'épée, il charge. Voilà, alors là, il est cadré, l'imenio se place, et... Il y a une petite réaction nerveuse du public. Voilà, là, il va partir. Oui.
L'épée me paraît un peu en avant, mais elle a été portée avec foi, avec beaucoup de foi, et l'hymen a bien basculé. Quoi. Et voilà, le taureau. Non, le taureau se relève. Voilà. Là, le taureau s'est relevé, ça arrive. Il est tombé, il se relève, mais il est mort. Ben, c'est... Voilà, il est en train de mourir.
Cette émission a été diffusée pour la première fois le 5 juin 1998. Vous pouvez la réécouter durant 1000 jours et la télécharger pendant un an à la page des nuits sur le site franceculture.fr. Oh!